Bon, eh bien, on va revenir sur cette nouvelle, hein, qui fait la une partout au Canada, puis je pense que ça fait la une pas mal partout dans le monde, la décision hier du président des États-Unis, Donald Trump, d'imposer un tarif de 25 % sur toutes les importations américaines, états-uniennes, donc d'acier et d'aluminium. Et bien évidemment, ça retient l'attention de notre chroniqueur économique, Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Chabot.
Alors là, on va parler justement de la sortie de Donald Trump. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui motive le président Trump à agir de la sorte?
Mais premièrement, on va mentionner les tarifs vont être en vigueur le 12 mars. Est-ce qu'on va répéter le scénario de la dernière menace de tarifs qui a finalement
Ah, ça
qui a
commence à être
changé
fatigant,
d'idée?
hein, ouais.
Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va être ça ou là il est vraiment sérieux? On va voir, on va espérer que ça va évoluer dans le bon sens là, dans le prochain mois. Mais sinon, les Américains, le président Trump en tête, voudraient augmenter la production intérieure d'acier et d'aluminium. Ils jugent que c'est des matières, à juste titre, que ce sont des matériaux critiques pour la sécurité nationale. Là, ça rentre dans la fabrication de missiles, d'armement, de véhicules militaires, pièces d'avion, mais aussi civils, là, des véhicules électriques, etc., des canettes de bière pour l'aluminium. Donc, ils voient ça comme des matériaux stratégiques. Puis là, la production intérieure de ces deux matériaux-là a beaucoup diminué dans les 20 ou 30 dernières années. Je vous donne un exemple. Pour l'aluminium, dans les années 90, les Américains produisaient 3,7 millions de tonnes d'aluminium. Aujourd'hui, ils sont à 750 000 tonnes. Et puis, ils en consomment 5 millions. Donc, il y a un gros déficit, là. Ils importent 4,25 millions de tonnes annuellement d'aluminium. Le Canada, lui, on en produit 3,3 millions. Donc, on est un gros producteur. Mais si on regarde la Chine, 31 millions de tonnes qui est produit par la Chine. Ensuite, je n'ai pas les chiffres, là, mais l'Inde et la Russie suivent là, à l'échelle mondiale pour les plus gros producteurs. Donc, les Américains sont devenus un joueur mineur. Il y a une forte demande d'aluminium pour toutes sortes d'industries, puis notamment militaires. Donc, ils disent, ben là, nous, on veut relancer notre industrie locale. Comment on fait ça? Ben, il faut ralentir les importations, puis on met des tarifs. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. J'explique un peu s'il y a une logique là-dedans, ça serait ça. Un des problèmes, c'est que produire de l'aluminium, ça coûte très cher en énergie. Aux États-Unis, là, le coût de l'énergie du kilowattheure peut varier entre 11 et 21 sous, dépendamment des États où on se trouve aux États-Unis. Alors qu'au Québec, on est plus autour de 6 sous. Donc, on est plus que la moitié moins cher, là, dépendamment des endroits. Alors, tout ça explique certainement le coût de l'énergie, le déclin de l'industrie américaine. Et en même temps, la Chine a fait des investissements massifs dans les 20 dernières années pour augmenter sa production d'aluminium puis également d'acier. Ah. Donc, ça nous donne un peu le portrait économique. Le Québec serait touché par ces tarifs-là parce que 8 des 9 alumineries canadiennes visées là, sont au Québec. On produit 90 % de la production canadienne. Puis presque toute notre production, là, c'est à la hauteur de 8,8 milliards, je me souviens bien ce que j'ai lu, là, au-dessus de 8 milliards, c'est exporté aux États-Unis. On parle d'à peu près 38 000 emplois qui seraient reliés là, à cette production-là. Donc ça, c'est pour l'aluminium. L'acier, c'est à peu près la même chose, là. Les grands joueurs mondiaux, c'est la Chine, ensuite le Japon, puis l'Inde, puis les États-Unis en quatrième place. Mais les États-Unis consomment 100 millions de tonnes d'acier par année, puis en importent à peu près le tiers.
Wow.
Donc, c'est des
Ça
gros montants.
donne le portrait. Peut-être que si on a le temps, je verrai parce que j'ai des questions qui me viennent en tête, mais je vais quand même suivre notre plan là. Pourquoi là on cible pas les pourquoi on cible pas les principaux pays exportateurs?
Oui, vers les États-Unis. Un danger, c'est que, puis on le voit là, à un moment donné, avec les peut-être pas dans le cadre des tarifs, mais avec les sanctions qui ont été imposées à la Chine, puis surtout la Russie suite à la guerre en Ukraine, c'est qu'un pays qui est exportateur pourrait envoyer ses matières premières dans un tiers pays, qui ensuite pourrait le transformer un peu ou pas, puis là, les réexporter aux États-Unis. Donc, par exemple, la Chine pourrait prendre de l'acier, l'envoyer au Vietnam, dire, bon, vous jouez un peu avec, transformez un petit peu ou pas, puis là, ou juste transformer un peu, puis là, c'est écrit « Made in Vietnam », puis là, c'est envoyé aux États-Unis. Alors, vraiment, à la base, c'est de l'acier chinois. Alors, les États-Unis veulent éviter ces espèces de fuites dans le système. Donc là, on se dit, on va taxer tout le monde. Puis la Chine est indirectement visée, puis aussi peut-être responsable un peu de ce qui se passe, là, puis responsable pas de mauvaise foi, mais ils ont beaucoup augmenté leur capacité de production depuis 20 ans. Et puis, peut-être jusqu'à il y a quelques années, la demande intérieure en Chine était énorme, il y avait une forte croissance, puis on utilisait une grosse partie de la production nationale pour construire localement. L'économie de la Chine a ralenti, là, notamment depuis la COVID. Là, on pense que ça n'a pas été très, très bien géré du côté des autorités chinoises. Donc, mais la production, elle est là, mais là, la demande intérieure n'est pas. Alors, ce que la Chine a fait, bien, ils ont exporté beaucoup. Ça a fait baisser les prix mondiaux. Puis une des conséquences des prix plus faibles, c'est que là, il y a une partie de l'industrie américaine qui devenait moins concurrentielle. Il y a des usines qui ferment, et puis là, ben, on produit moins localement, puis on importe plus, puis ça irrite le président Trump.
Bon, alors qu'est-ce que va faire le Canada dans tout ça?
Bon, c'est une bonne question. Monsieur Trudeau, ce matin, a promis, ou hier, là, a promis qu'il y aurait une riposte, qu'on était pour faire quelque chose. Évidemment, on peut pas dire on va faire comme eux, on va taxer les importations d'aluminium et d'acier qui rentrent au Canada, qui viennent des États-Unis, parce qu'on en importe à peu près pas. Donc là, il faut trouver un autre endroit où le bas blesserait, disons. Le Canada, puis ça, je pense que c'est une bonne chose. Il semble vouloir se coordonner avec d'autres grands joueurs économiques, notamment l'Union européenne. L'Union européenne a un fort poids économique à l'échelle mondiale. Donc, si là tous les pays visés commencent à se mettre ensemble puis ciblent les États-Unis, ben les États-Unis vont avoir l'air moins gros économiquement là, que chacun individuellement vis-à-vis l'Américain. Il y a une solution proposée, je voulais en parler, là, qui je pense qui est novatrice, dans le Globe and Mail d'hier par Hugo Cordeau, que je connais un peu. Là. Lui, il est actuellement en train de faire son doctorat en économie à l'Université de Toronto. Puis c'est un ancien étudiant de l'Université de Montréal, qui est très dynamique, puis qui intervient relativement souvent dans les journaux. Puis lui, il proposait, puis je pense que c'est une solution qui mérite certainement d'être étudiée, d'instaurer un tarif compensatoire sur les importations qui viennent des États-Unis, mais en fonction du contenu carbone, puis le différentiel de prix du carbone entre les deux pays. Puis ça, juste cette idée-là, là, hors du cadre dans lequel on parle, bien, l'Europe pense à faire ça puis pour des raisons environnementales. Puis la logique derrière ces tarifs compensatoires, c'est de dire, par exemple, dans le cas du Canada, supposons nous, on a une taxe carbone à l'échelle nationale ou le marché du carbone au Québec. Donc, nos industries doivent payer pour le carbone qu'ils émettent dans l'atmosphère. Si nos industries, nos firmes sont en concurrence avec des entreprises américaines qui font pas face au même prix du carbone, bien là, on a un désavantage. Alors, comment contrer ça? C'est de dire, bien, toutes les importations américaines qui sont pas tarifées au niveau du carbone à la même échelle ou à la même hauteur que nous, on va leur imposer un tarif différentiel. Donc, juste pour l'environnement, ça, c'est bon. Pourquoi ça pourrait être intéressant, même dans le cadre de nos tarifs? Bien, un, il y a l'environnement, donc puis c'est doublement intéressant pour l'environnement parce que le président Trump veut favoriser les énergies fossiles, puis là, en mettant des tarifs comme ça, on va dire, vous vous tirez une balle dans le pied si vous favorisez les énergies fossiles, parce que nous, les produits issus de cette énergie fossile-là, on va les taxer plus que les produits verts avec ce tarif compensatoire. Puis le deuxième avantage qui est plus politique, c'est que les États où on pollue le plus, c'est-à-dire où on émet le plus de carbone par exemple, kilowattheure d'énergie produite, la plupart, ce sont des États rouges républicains qui ont voté pour Trump. Alors, si nos tarifs variaient en fonction de la provenance à l'intérieur des États-Unis, de quel ou quel État ça vient, puis là, on dit, ah ben ça vient, je sais pas moi, du Wyoming, où on pollue beaucoup, ben on va mettre un tarif plus élevé que si ça vient d'un État plus vert. Mais là, on fait plus mal aux États républicains, puis là, on espère que politiquement, peut-être que le président réagirait. Là. Donc c'est assez intéressant de regarder ça. Évidemment, le président Trump pourrait réagir, puis là, ben, Alors, des fois, on peut s'en aller dans une escalade à ne plus finir, là, mais ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant parce que doublement, là, il y a et l'environnement, puis le géopolitique là, qui pourrait être utile.
Sans rentrer dans trop de discussions, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais au bout du compte, ceux qui payent les tarifs douaniers, ce sont les consommateurs et consommatrices. Et donc, les électeurs, ouais, des deux côtés de la frontière, mais aux États-Unis, il a promis de réduire l'inflation, il a promis de rendre les gens plus riches. Ça risque d'être compliqué. Peut-être qu'on devra en discuter la semaine prochaine, Michel.
Oui, c'est ça. Mais effectivement, ça risque d'être compliqué, mais souvent, ça va prendre un peu de temps avant que ça se répercute dans les prix. Mm. Puis encore une fois, il y a peut-être une stratégie de négociation pour aller chercher certains avantages, mais à un moment donné, c'est peut-être une expression.
Ça commence à être compliqué à comprendre tout ça.
Ah, de l'aise, c'est ça, mais il faut peut-être, en guillemets, appeler le bluff ou caler le bluff, comme on dit, là, du président. À un moment donné, là, il commence à niaiser, nous autres, on y va, là. On va y mettre nos tarifs, là, si vous voulez. on vous donnera plus de concessions. Mettez-les vos tarifs, on va riposter. Vous allez voir, vous allez payer, vous autres aussi.
Bon, ben Michel Poitevin, on reparle de tout ça la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Journée.